me fait plaisir ce matin de pouvoir présenter M. Morissette ainsi que son ami Jean Renaud qui est avec lui ce matin. Alors, M. Morissette est pasteur évangéliste à l'église Terrebonne-Mascouche et c'est lui qui a implanté le programme Le Filet que nous sommes en train d'implanter ici à l'Assemblée. Il va nous parler de ça ce matin. Moi, j'ai connu M. Morissette quand lui était à Matane puis moi, j'étais à Saint-Anne-des-Monts. Mais lui, il s'en souvient pas. C'est parce qu'il est plus vieux. C'est parce qu'il est plus vieux que moi, ça. OK. Je vais le laisser se présenter tantôt. Il doit être grand-père, j'imagine, quelque chose comme ça. Simplement, vous dire que à midi, tous ceux et celles qui s'intéressent, on va descendre au sous-sol, on va se faire venir du ticoc, on va manger ensemble, puis dans l'après-midi, en début d'après-midi, ceux et celles qui ont des questions, il va être là pour répondre aux questions. On va revenir après, là. Pensez-y, puis tantôt on va revenir pour faire lever la main à ceux et celles qui désirent rester. On va revenir tantôt. Alors, sans plus tarder, je laisse M. Morissette.
Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ma voix céleste est arrivée? Hein? C'est bon d'être avec vous. Pour moi, c'est tout un privilège. Ça fait longtemps que j'entends parler de vous. Moi, je suis un petit gars de Victo. Alors, Victo, Trois-Rivières, on est proche. Alors, puis j'ai le privilège d'être avec vous ce matin. Je viens d'une famille, vous voyez l'âge que j'ai. Alors, mon arrière-grand-père était catholique, mon grand-père, mon père. Je suis le premier dans la famille qui est protestant, francophone, imaginez. Puis en plus, je suis pasteur aujourd'hui. C'est une révolution. C'est une révolution. Je suis marié, je suis avec... une femme qui s'appelle Marie Nollet, et ça fait au-dessus de 38 ans qu'on est ensemble. Mon prénom c'est Noël, mais si ma femme serait ici, elle pourrait vous dire « je ne suis pas un cadeau parce que je m'appelle Noël ». Après 38 ans, elle pourrait vous dire ça. J'ai le privilège d'avoir deux garçons, deux filles. J'ai aussi le privilège d'être grand-père 5 fois. Alors c'est tout. On est rendu 14 dans notre famille, hein, très heureux pour ça. Je me suis converti dans les années 70, j'ai eu à cœur de partager l'Évangile. Je venais d'être sauvé de l'éternité. Parce que moi, là, ma vie était assez désordonnée. Je savais que si je mourais, j'allais pas au ciel. C'était clair. Puis un matin, je suis débosseleur, moi, de métier. Ma vie, c'était les chars. Je couchais là-dedans, je mangeais là-dedans. Je faisais tout là-dedans. Puis ceux qui ont les cheveux un petit peu plus gris et... blanc, j'avais un Chrysler 59, Windsor. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce char-là avait quelque chose de spécial. Il était comme un char de Batman. Il avait des grosses ailes en arrière. Mais il avait quelque chose de spécial. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, là, ceux qui sont plus vieux, là? Il y avait une transmission à boutons là-dedans. Et c'était trippant. Hein? Il y en a eu un, c'est bon. Alors, on ne demandera pas son âge, là, mais il y en a eu un. Alors, ce qu'il a fait, c'est que j'avais tellement à cœur de partager ce que le Seigneur a fait avec moi. Et il y avait un homme qui était sur la Côte-Nord, à cette île. Il a décidé de faire un garage chrétien. Alors, ce qu'il a fait, il a envoyé des lettres un peu partout dans les églises évangéliques pour avoir des débosseleurs chrétiens. Puis j'ai répondu. J'ai déménagé à cette île. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, là, mais un garage de débosselage chrétien. Plus de femmes tout nues là-dedans, là, hein? On lit la Bible au break. Les clients sont là. On chante pour le Seigneur. Les gens, ils trippent là. Alors, j'ai eu toute une belle expérience. Et puis, de fil en aiguille, l'église de cette île m'a demandé si je ne voulais pas étudier la Bible. Alors, je suis devenu serviteur en formation. Et l'église de cette île m'a envoyé justement en Gaspésie. Et c'est là que j'ai rencontré M. Lépine. Je suis le missionnaire fondateur de l'église de Matane, qui est sur la 138, 132. Alors, de fil en aiguille, j'ai retourné dans les cantons de l'Est à Victoriaville, et puis j'ai, en réfléchissant puis en voyant tout ce que Dieu pouvait faire, j'avais un rêve, c'était de devenir un évangéliste à temps plein dans une église locale. C'était révolutionnaire, ça n'existe pas. Parce que généralement, on va engager des gens pour enseigner. On va engager des pasteurs jeunesse ou des gens qui vont prendre soin de la jeunesse. Mais engager un évangéliste à temps plein, c'est qu'est-ce qu'il va faire ce gars-là? Hein? Mais c'est parce qu'on oublie que l'évangélisation, c'est gigantesque. C'est un département très grand. Alors, de De fil en aiguille, j'ai eu le privilège que l'Église de Terrebonne-Mascouche a. On a pris un risque d'engager un gars comme Noël Morissette. C'est toujours un risque quand vous approchez de moi. Hein? Dieu vous aime, j'ai un plan merveilleux pour vous, moi. Noël a ça. Et ça, c'est dangereux parce qu'on veut servir le Seigneur. Et en 2009, je suis devenu à temps plein, officiellement évangéliste de l'Église de Terrebonne-Mascouche. Et c'est une des premières qu'on peut voir aussi, un tandem pasteur-évangéliste aussi. Et lorsqu'on parle d'évangéliste, ce matin, ce mot-là, évangéliste, est surtout associé à Éphésiens 4. Lorsque Dieu a dit, a donné des pasteurs, des évangélistes et des docteurs pour équiper les saints. Alors, depuis 5 ans bientôt, je suis à temps plein comme évangéliste. C'était normal aussi parce que l'Église, il faut que vous ayez une Église assez grande pour avoir ce genre d'ouvriers. Chez nous, à l'Église de Terrebonne-Mascouche, nous avons 2 services, à peu près de 300. Alors, dans l'Église, on est environ 600. On est environ 10 d'anciens. On a un staff pastoral et ça va avec la grandeur de l'Église aussi. Mais de fil en aiguille, lorsqu'on parle d'évangélisation, vous parlez de la prière. L'évangélisation sans la prière, c'est... L'évangélisation, c'est pas humain, c'est divin. Il y a juste Dieu qui peut transformer le cœur d'un homme. Vous êtes d'accord avec ça? Ceux qui sont mariés, là, vous avez déjà essayé de changer votre mari ou votre femme? Ça marche-tu? Si ma femme serait ici, elle vous dirait, j'ai essayé de changer Noël depuis 38 ans, ça ne marche pas. Il y a juste le Seigneur qui peut nous donner un nouveau cœur. Juste le Saint-Esprit qui peut faire ça. Alors, c'est important. Aussi, l'évangélisation, c'est la formation. C'est l'implantation d'église. Une des raisons pourquoi je suis à l'Église de Terrebonne-Mascouche, c'est que l'Église de Terrebonne-Mascouche a un projet d'implanter 10 nouvelles églises en 20 ans. Alors, moi, je suis responsable, lorsqu'on parle de l'implantation, moi, je suis responsable d'encourager les gens à évangéliser dans la nouvelle église. Alors, ça, c'est une de mes responsabilités aussi que j'ai. Je n'ai pas juste une responsabilité dans l'église locale, mais j'en ai une aussi à l'extérieur. Aussi, ce qu'on peut voir, une des choses que j'ai travaillé depuis 15 ans, et c'est ça que je vais vous partager ce matin, c'est les visiteurs, les gens qui viennent nous visiter. Parce qu'il est clair que quand vous êtes dans un noyau, vous êtes dans une église de 50-60, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un de nouveau arrive dans 50-60 personnes, qu'est-ce qui arrive? On le reconnaît tout de suite. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, puis généralement, l'accueil, Dieu va pourvoir un couple qui va s'appeler, on va les appeler ce matin Pauline et Joe. Okay? Généralement, Pauline et Joe sont dans l'église, puis c'est eux qui les invitent pour dîner. Je ne sais pas si vous avez des Pauline et Joe ici, là. Mais généralement, dans un noyau de 50, 60, 70, 80, 100, il y a tout le temps un couple qui a à cœur les nouveaux, les visiteurs. Ils les amènent chez eux. Mais à un moment donné, quand tu es rendu à 200, tu penses toujours que Pauline et Joe sont là. Là, tu es rendu à 250, tu es rendu à 300, tu penses toujours que Paulo et Joe sont là. Mais à un moment donné, le rendu à 300, 350, 400, tu as 2 services comme nous. Mais Paulo et Joe, là, ça fait longtemps. Pauline, ça? Paulette, alors vous me suivez, hein? Je vais vous avoir. Alors, voyez-vous, à un moment donné, il faut être très intentionnel. À un moment donné, il faut avoir une planification. À un moment donné, il faut s'asseoir et dire, comment on va faire pour reconnaître nos visiteurs? Parce que de plus en plus, vous avez des gens qui viennent. Et si vous avez 2 services, comment on fait pour gérer toute cette dimension des gens? Alors, ce matin, le sujet, c'est l'accueil. Vous avez vu mes amis, Walter et Joe. Joe et Walter sont là. Alors, ce matin, je vais juste vous partager quelques principes. Puis, dites-vous une chose, l'accueil, c'est pas nous qui avons inventé ça. Ça fait longtemps que ça existe. Et je vous dirais, si vous voulez tourner avec moi dans ceux qui ont leur Bible, tournez dans Luc. Alors, même le Seigneur Jésus... Luc 9, 11. Avant de s'introduire dans le texte, vous savez, chaque église a un bassin de visiteurs. Chaque église, Dieu permet qu'il nous envoie des visiteurs. Exemple, à l'église de Terrebonne-Mascouche, juste le dimanche matin, okay? Puis ici, vous êtes une assez grande assemblée, c'est excellent. Je ne sais pas combien vous êtes, mais sûrement vous avez des visiteurs régulièrement. Chez nous, le dimanche matin, pendant 12 mois, l'année dernière, on a eu 370 visiteurs. fait du monde, ça. C'est assez spécial, la question de Noël. Comment tu fais pour savoir qu'il y a 370 visiteurs? C'est quoi la question? La réponse, c'est que on les identifie et on les compte. On a quelque chose de très intentionnel. Si vous venez chez nous, là, moi, je vais le savoir que vous êtes chez nous. On n'a pas des caméras cachées, là, c'est pas ça, là. Mais on a une structure interne, physique, à l'intérieur du sanctuaire. Il y a des gens qui disent, « Ah, moi, je vais aller dans une grosse église, là, puis je vais me cacher. » Je ne sais pas si vous avez connu ça, des chrétiens comme ça, là. Chrétiens anonymes, des AA, je ne sais pas trop comment on les appelle. Mais ils arrivent chez nous, puis on les trouve. Comment tu fais? On a un secret. Hein? On vous met une marque en entrant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, on est très intentionnel. Pourquoi? Parce que c'est important. Juste pour vous dire comment c'est important. Il y a un an, il y a un jeune homme qui est venu à l'église un dimanche matin. Et puis, bon, on l'a accueilli. Puis, lorsqu'il y a un des gars qui l'a rencontré, il a dit, « Si je n'ai pas un matin, je m'enlevais la vie à l'église. » C'est très important d'être capable de bien recevoir nos visiteurs. Parce que plus vous êtes capable, Dieu va nous les envoyer. Parce qu'il veut qu'on en prenne soin. Alors, si on n'aurait pas été organisé, si on n'aurait pas été intentionnel, est-ce que cet homme-là, il aurait venu, puis il aurait ressorti de l'église, puis on ne l'aurait pas su? Puis quand je parle de l'accueil, c'est sûr que chaque église évangélique est très accueillante. Vous êtes très accueillants ici ce matin. Quelqu'un nouveau, un visiteur rentre, on lui fait un sourire, on lui donne la main, on est accueillant. Mais quand je parle d'accueillir les gens, c'est le désir d'aller plus loin que ça. C'est le désir de les connaître, le désir de les rencontrer, les désirs de les aider. C'est ça, accueillir quelqu'un. Et ça, je pense que c'est très important de réaliser cette dimension-là. Alors, l'accueil, c'est pas nous qui l'avons inventé. Elle existait déjà dans l'Ancien Testament. Et dans Luc 9, 11, les foules s'en aperçurent et le suivirent, et Jésus les accueillit. Et il leur parlait du royaume de Dieu et guérissait aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Le Seigneur Jésus accueillait les gens. Alors, on a tout un modèle, là. Puis si vous remarquez, là, il les accueillait pour deux choses. Qu'est-ce qu'il faisait avec eux? Il leur parlait du royaume de Dieu, puis il répondait à leurs besoins physiques. C'est intéressant. Alors, accueillir les gens, ce n'est pas juste de prendre le petit thé avec le biscuit soda, là. C'est pas ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire qu'on doit prendre soin de ces gens-là, soit physiquement, soit moralement, soit émotionnellement, et aussi de leur parler du royaume de Dieu. Je dirais que ce matin, il y en a beaucoup, là, de visiteurs. C'est sûr que pour moi, on s'amuse, nous autres, parce qu'on vient de familles évangéliques différentes. Puis des fois, au lieu d'utiliser le mot « famille », on dit « on vient d'une autre tribu ». Okay? Moi, je viens d'une autre tribu ici ce matin. Okay? Dans notre tribu à nous, on a 80 églises. Okay? Dans 80 églises, avec un projet que j'ai travaillé depuis presque un an, dans 80 églises, dans notre tribu à nous, on reçoit 200 visiteurs par dimanche matin. C'est quelque chose, ça. Dans notre tribu, on reçoit presque 10 000 visiteurs par année. Puis dans votre tribu, là, vous avez plusieurs églises aussi. Est-ce qu'on a à peu près une quarantaine d'églises, là? 49 dans votre tribu? Hey, ça fait comment? Ça fait du monde, ça, là? Ça veut dire que dans deux tribus, là, juste dans nos deux tribus, on reçoit presque 15 000 visiteurs par année. Ah, il faut s'arrêter, là. Il faut être intentionnel, vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas juste voir passer le train et dire, ah, le Seigneur va s'en occuper. Ah, on est très spirituel, nous. Hein? Le Seigneur est capable, oui, mais il va nous utiliser. Alors, ce matin, c'est des petits principes que je vais vous enseigner. Des principes que vous connaissez, mais que je veux que vous vous arrêtiez ce matin. Aussi, c'est des principes qu'ils vont être associés dans un contexte des croyants. Mais lorsque les gens ils rentrent ici dans le sanctuaire, vous ne savez pas si c'est croyant ou pas. Quand je forme mes gens, je leur dis toujours, ne prenez jamais comme prémisse qu'il est chrétien ou pas. « Hey, Noël, il est rentré avec sa Bible. Il est chrétien, c'est sûr. » Noël, il a chanté, je l'ai vu. Il est chrétien. C'est sûr qu'il est chrétien. Quand on a prié, ferme les yeux. Il est chrétien. Il est chrétien. C'est sûr qu'il est chrétien. Moi, je leur dis toujours, tant qu'on ne les visite pas, on ne sait pas s'ils sont chrétiens ou pas. Puis si vous partez avec une prémisse de dire qu'il est chrétien, vous ne poserez pas les bonnes questions. Parce que vous allez commencer tout de suite qu'il est chrétien, fait que vous ne poserez pas les bonnes questions. Vous partez avec la prémisse qui est fausse. Alors, c'est important de réaliser ça. Ce matin, le premier principe que j'aimerais jaser avec vous, c'est être prêt à reconnaître la valeur des personnes qui rentrent ici. Le verset, c'est dans 2 Corinthiens 7,15. Il est, je crois qu'il est écrit ici, là, si vous voulez le lire avec moi. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Ici, c'est un texte qui est vraiment associé à Tite. Tite a visité les gens, puis il a été tellement bien reçu. Il a été reçu avec crainte. Ça ne veut pas dire que les gens avaient peur de lui. Ce que ça veut dire, c'est qu'on l'a respecté. Et tremblement, ce qui veut dire qu'on lui a donné la dignité. Autrement dit, quand on reçoit nos visiteurs le dimanche matin, on doit leur donner la dignité qui leur revient. Puis que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, on a des préjugés. Puis ça, il faut faire attention avec nos préjugés. OK? Alors, si le Seigneur nous envoie des gens, on doit les regarder au travers des yeux du Seigneur Jésus. C'est la même chose avec Jacques. Jacques, il dit, faites attention. Il y a des gens riches qui viennent vous visiter, puis là, tu veux faire monter la personne riche plus proche du pupitre. Puis non, Jacques, il dit, ça ne doit pas être comme ça dans l'Église du Seigneur. Mais s'il l'écrit, c'est parce qu'on a tendance à faire ça. On a vraiment tendance à faire ça. Si ce matin, quelqu'un rentre avec les cheveux bleus, comment vous voyez ça, là, vous? Première des choses, tu dis, c'est pas naturel. D'accord avec ça? Moi, j'ai eu 4 enfants, puis ils ont eu tous soit des blonds ou des noirs. Des bleus, j'aurais resté surpris. Mais ça vous fait penser à quoi quand vous voyez quelqu'un qui a les cheveux d'une couleur qui sort de l'ordinaire? On n'a pas tendance à s'approcher de ces gens-là. Quand vous en voyez là, qui sont pleins de métal sur le corps, j'espère qu'ils ne passent pas trop proche d'un aimant, parce que c'est dangereux pour eux. Ça doit tirer à gauche. Comment qu'on se sent? Tu sais, tu es en train de témoigner, puis il y a une petite bille, là. J'ai rien contre les billes, là, ça à l'angle, là. Ils parlent, puis tu vois ça, là. C'est dur à prêcher, ces gars-là. C'est comment tu te sens? Nous, on a eu le privilège qu'il y a eu quelques jeunes de la rue qui s'est converti à l'Église. Tu sais, puis c'est important de prendre soin des gens. Que vous vouliez ou pas, c'est contre vos projets. On a la difficulté à s'approcher de ces gens-là. C'était assez drôle parce qu'elle avait une jambe très tatouée. Fait que là, c'était drôle parce que quand elle s'élevait pour aller aux toilettes, tout le monde était comme ça. Elle porte-tu des bas de nylon ou c'est quoi qu'elle a? Ça nous interpelle, on n'est pas habitué. L'autre, son ami qui s'est converti, il avait plein de croix gammées. Il dit, je ne pourrais pas être baptisé. Je dis, pourquoi tu ne peux pas être baptisé? Ben, il dit, je vais me baptiser si je suis en Bédène. On ne baptise personne en Bédène. C'est correct? Écoutez, comment on se sent? Ou regardez comment on est, là. Je vous amène sur le côté pratique. Je te demande, quelle sorte de char que tu as? Ça représente quoi un auto, ça? C'est important, un auto? Ben, si je te dis j'ai une Lada, ça n'existe plus, là, parce que les plus vieux, vous avez connu ça, les Lada? Au Canada, ça ne valait pas grand-chose. Si je te dis j'ai une Lada, mais si je te dis un matin, je suis venu avec ma 3e Mercedes, ça dit quoi, ça, la Mercedes? Ça dit, il y a un gars-là, il y a des dettes. Ah, si vous voulez. Ça dépend ce que le bord que t'es, hein? Ça dépend ce que le bord, surtout si c'est ma 3e, là, tu sais. C'est comme dans un film, le petit gars, il dit, « Hey, je vais te montrer la porcherie à mon père, tu sais. » Il y avait 10 Porsches dans le garage. C'est ça, la porcherie. Que vous le vouliez ou pas, on a des préjugés. je te demande ton adresse, dans quel quartier que tu restes? Un quartier, c'est important, ça? De quel quartier, Trois-Rivières ou ici, c'est Quatre-de-la-Madeleine? Tu restes où? Ça me dit quelque chose, ça. Veux, veux pas, on est, ça nous interpelle tout le temps, la valeur. Je te demande ton travail, qu'est-ce que tu fais? Mais la Bible nous encourage, on doit remettre la valeur humaine à tout le monde. Ça ne va pas avec la sorte de ton char, ça ne va pas avec qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça va, tu es humain, tu as une valeur humaine, on doit leur donner la valeur humaine. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'ici, que le principe nous encourage, c'est de dire, là, tantôt, là, ils viennent, ils auront la couleur de peau qu'ils voudront. On a vu ça tantôt, là, c'était un petit mix de blanc et noir. Mais nous, on a des jaunes aussi, puis, tu sais, la langue, ça fait quoi, ça, que tu parles une autre langue? La seule chose, il faut que tu me donnes, il faut que j'aille un interprète pour comprendre. Mais c'est pas plus important. Mais nous, l'être humain, là, on a des préjugés, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Même dans le milieu évangélique, il y a de la gloire dans le monde évangélique. Il y a de la gloire. Mais on ne doit pas tomber dans ce piège-là. Quand les gens me rencontrent pour la première fois, je ne dis pas ma fonction. Je ne veux pas. Parce que tout de suite, je m'aperçois qu'ils changent les gens. Je dis, je suis Noël Morissette. Ça finit là. Mais je dis, s'il dit, ouais, mais c'est quoi tu fais dans la vie? C'est là que ça change. Puis ça, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, c'est dans notre nature. Alors, frères et sœurs, vous savez, que le gars il a eu la barbe bleue un matin, les cheveux rouges, Dieu l'aime. Qu'il ait des piercings partout, là, Dieu l'aime. On ne doit pas faire de différence. Je sais que c'est pas évident. À un moment donné, en tant qu'évangéliste, j'ai travaillé dans les prisons. Ah, j'ai vu des affaires là, mon ami, là. Le gars, je ne voyais pas les yeux. Il était tatoué tellement. Mais c'est un être humain pareil, là. Il y a une valeur humaine. Savez-vous pourquoi on n'a pas le droit de tuer les gens? Parce que c'est parce qu'on est fait à l'image de Dieu. C'est sûr, quand je me regarde dans le miroir, l'image de Dieu est pas mal défrichée un peu, là, tu sais. J'ai l'air plus tard que je descends du singe des fois quand je me regarde le matin, là, mais... Je crois pas à ça non plus. OK? Mais c'est juste l'idée. C'est l'image de Dieu. Puis si Dieu nous l'envoie, c'est parce qu'il veut qu'on en prenne soin. Qu'on en prenne soin. Alors, frères et sœurs, on doit vraiment prendre soin des uns des autres. Dans les prisons, j'ai rencontré un homme, que je n'aimerais pas son nom, mais vous connaissez très bien par la télé. C'était un grand boxeur. Il était grand boxeur. Et il fait partie d'une famille qui est très connue. Je l'ai amené à l'église de Terrebonne-Mascouche. C'est drôle comment les gens y sont. Mais cet homme-là, là, on doit lui donner sa valeur humaine. Cet homme-là, il a la même valeur que nous. Il y a des gens qui ont dit, moi, je ne veux pas y parler. Tu as le droit. Mais si on ne parle pas, on ne témoigne pas de l'amour de Dieu, que Dieu peut changer sa vie, c'est qui va le faire? Ce n'est pas nous. Il y a des gens qui m'ont dit qu'à un moment donné, je voulais l'amener ailleurs. Ils ont dit, si tu l'amènes, on ne veut même pas rentrer dans l'église. C'est quelque chose, ça. Pourtant, le Seigneur, c'est quoi qui nous encourage? De les aimer. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ce qu'il a fait, là. C'est pas ça que je dis. Mais je dis, on doit l'aimer. Quand ça a été tellement mal dans sa vie, là, quand ses filles ont écrit le livre, là, ça finissait plus, puis tout, là, j'étais le seul gars qui était là. Puis j'ai été méprisé par les gardiens. La seule chose qu'il faisait, j'étais là, moi, je dis, Seigneur, l'aime, cet homme-là. Qui peut être à côté de lui, excepté le Seigneur Jésus? Alors, je termine avec ça ici, cette partie-là. On doit accueillir, donnons une place aux gens qui viennent. OK? C'est important. Deuxième principe que je voulais vous partager ce matin, c'est être prêt à prendre soin des gens. Prêt à prendre soin des gens. Le Colossiens 4, 10 nous dit, « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le accueillez-le. On a aussi une autre version qui dit, faites-lui bon accueil. Alors, on doit prendre soin des gens. Mais si on veut prendre soin des gens, ce n'est pas juste le dimanche matin. Il va falloir les rencontrer, il va falloir les écouter, il va falloir prendre le temps avec eux. Prendre le temps, c'est important. Je visite beaucoup d'églises et dans les dernières années, on a remarqué que presque la plupart des églises n'ont plus d'équipe de visite. Presque toutes les églises n'ont plus d'équipe de visite. Ça, je pense que là, on doit s'arrêter puis réfléchir là-dessus. Parce que les visites, quelqu'un dit, les visites, c'est le bras de l'église. Je ne peux pas tout vous amener dans un même foyer. On est d'accord avec ça? Mais s'il y a des représentants de l'église, c'est l'église qui est là. C'est l'église qui peut écouter. C'est l'église qui va qu'on puisse les rencontrer, les besoins. Vous savez, quand vous ne faites pas les visites, puis vous restez ici le dimanche matin, puis vous faites votre vie, puis tout ça. Mais visitez les gens souffrent. Les gens souffrent. Chacun de nous, on a notre petite histoire ici. Chacun de nous, moi-même, j'ai ma petite histoire. On a besoin d'aller voir. On a besoin de prendre soin des gens. Et ça, c'est important, je dirais. On rencontre beaucoup de monoparentales chez nous. On rencontre beaucoup ce qu'on appelle de la pauvreté déguisée. On a tendance à dire, il n'y a pas de pauvres au Québec. Mais savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ne déjeunent pas encore, même des adultes? Savez-vous ça? C'est sûr, là, on peut dire, ah, ben Noël, ils dépensent mal leur argent. Hein? Il y a de la drogue avec ça. Ils fument des cigarettes. Ouais, OK. C'est correct. Qui de nous n'abuse pas de la miséricorde de Dieu ici? Parce que c'est toujours le même point que les gens disent, « Oui, mais ils vont abuser. » Ah oui, c'est sûr que tant qu'on va le savoir, on va arrêter. Mais entre-temps, on va-tu pas le faire parce qu'ils vont nous abuser? Voyons donc! C'est pas ça. Je me souviendrai toujours à Gatineau. J'ai été là-bas, puis on a été distribuer des sacs, OK, de nourriture. C'était le temps de Noël. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui abusent, là. On le sait, ça. Il y a des gens qui ont des carnets. Puis, ils notent les églises de 1 étoile à 5 étoiles. On le sait, ça. On n'est pas fous. Allez, là, l'église ici, là, du coin, là, c'est 4 étoiles. Appelle-là, mon homme, ça rentre. L'autre, l'église, 1 étoile. Là. Son, il va là, c'est parce qu'on est mal pris, là, tu sais. On le sait. Hey, c'est, pourquoi qu'il nous prend, là? On le sait qu'il abuse de nous autres. Mais on ne sait pas si qui abuse ou pas. On ne connaît pas tous les besoins ou pas. C'est trop facile de dire, « Ah, ils vont abuser, on ne les aidera pas. » Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Moi, les oreilles me rougissent des fois. Il faut prendre soin des gens. Prendre soin des gens. Ça, c'est important. Alors, je reviens avec mes... On ne sait pas tout ce que ça peut faire. Juste un sac de nourriture. Fait que j'étais à Gatineau, on distribuait. Puis à un moment donné, j'étais à Drummondville, au service correctionnel, la prison qui est à Drummond, là, sur le boulevard Lemire. J'étais en train de visiter quelqu'un. Puis là, je me lève. Puis là, il y a un gars, un prisonnier, qui est là, puis il dit, « Vous, monsieur, moi, quand les gens s'approchent de moi, je recule tout le temps. Je dis, c'est quoi j'ai fait, ou, monsieur, là? Vous, monsieur, est-ce que vous avez déjà demeuré à Gatineau? » Vous, est-ce que vous avez déjà distribué des sacs de nourriture? Oui. Ben, il dit, je crois que vous êtes venu chez nous. Voyez-vous? On ne sait pas tout ce que ça peut faire. Bon, est-ce qu'il nous a appelés et il avait déjà 10 à la table? On le sait-tu? On ne sait pas. Mais on doit prendre soin des gens. Puis, c'est exigeant de prendre soin des gens. C'est pour ça que le dernier petit principe ce matin que je vais vous communiquer, c'est qu'il faut être prêt à s'appauvrir pour la personne. Ça coûte quelque chose d'accueillir les gens. Ça coûte quelque chose de prendre soin des gens. Ça coûte quelque chose. Vous savez, comme on dit chez nous, on ne fait rien aujourd'hui sans argent. Ça prend de l'argent. Savez-vous la raison principale quand les gens, je leur dis, « Hey, on aurait quelqu'un à aller visiter. » Savez-vous c'est quoi la raison principale? Que les gens me disent, « Ah, je ne peux pas y aller. » La raison principale, c'est même pas l'argent. C'est le temps. On n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps, Noël, d'aller visiter les gens. « Oui, mais tu es ici, pourquoi, sur la terre? On est ici, pourquoi? » J'ai rien contre ça que tu aies trois Mercedes. Mais tu pourrais en avoir une, ça ferait pareil, me semble, tu sais. Mais l'argent et le temps, on a besoin de ça. C'est pour ça que je l'aime beaucoup dans Philémon 1.18 qui dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à Onésime. Et s'il t'a fait quelque tort, je veux dire Paul qui parle à Philémon pour Onésime, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Les amis, ça prend quelque chose pour prendre soin. Je ne sais pas si vous voyez ça ici à Trois-Rivières, mais le gaz, juste le gaz. D'accord avec ça? Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font les gens à l'autre bout du monde, non, mais ça change du jour au lendemain. Ça coûte cher. Aller visiter les gens, ils vont avoir un prix à payer. Et ce que je trouve difficile, moi, en vieillissant, c'est l'hiver, aller visiter les gens. Hein? Nous, on a une expression québécoise. Quand on dit aux gens au Québec, il fait froid, il fait froid. Mais si je te dis, il fait frette. Tu sais, il fait frette. Puis là, en vieillissant, là, je dis, il faut que j'embarque dans mon char, mettre mes bottes, faut que j'aille. Mais savez-vous quoi? C'est rien à ce que Jésus a fait pour moi. Moi, là, je mets des bottes qui valent peut-être 100$, mettons. Lui, il a quitté le ciel, son trône. Il a quitté la fortune. Alors, c'est important. Il faut être ouvert. Il faut aider les gens. À un moment donné, quand j'étais à l'église de Granby, on a reçu une famille qui arrivait d'un camp de réfugiés, une famille rwandaise. Et puis, on a appris qu'elle avait son linge dans le bain. Elle avait 4 enfants, ben, 3 enfants. En tout cas, il était 7 dans l'ensemble avec grand-maman qui était là. Ben, nous autres, on est Québécois. Tu te dis, elle lave son linge dans le bain. Tu sais. Pour nous, là, c'est inacceptable. Mais quand tu as été dans un camp réfugié puis tu as l'eau à la maison, c'est, moi, en fait, tu es en business. Tu es en business. L'eau dans la maison, tu es en business. Hey, ces enfants-là, ils ont arrivé, ils mangeaient juste du pain. Parce qu'il était juste nourri à farine. C'est incroyable. Ce monsieur-là, là, quand il a été chez Métro, là, ou whatever, nous, c'était Métro, quand il est rentré dans la rangée des animaux, il a capoté de voir que les animaux chez nous peuvent manger du steak, qu'ils peuvent avoir des ragoûts. Lui qui a mangé pendant des années juste de la poudre, et il savait pas. Fait que de fil en aiguille, je dis aux gars, il faut bien prendre soin d'eux autres. Dieu nous les a envoyés, il faut bien prendre soin. Alors, on a dit, on va leur acheter une laveuse sécheuse. Fait que là, les gars, ils ont dit, les gars avec qui je travaillais, j'ai dit, bon, on pourrait peut-être acheter une seconde main. Ils ont dit, hey, le second, on laisse ça. Tu sais, les laveuses Baptiste, là, ça 2 semaines, c'est brisé. On les donne, là, mais on peut rire de nous autres, là, on est capable de rire. Et les laveuses Baptiste, là, fait que les gars, ils ont dit, on se ramasse, on va se collecter, puis on achète des neuves. OK? Moi, j'étais très emballé de ça. Hey, on arrive au magasin. Puis c'était un frère qui travaillait dans ce magasin-là. Eux, ils n'avaient jamais vu de laveuse sécheuse. Là, vous pouvez vous imaginer le scénario. Là, on a expliqué à la madame que l'eau rentrait là-dedans. Elle ouvre le couvert, elle rentre la tête là-dedans. Check! Je sais pas comment on appelle ça, là, mais dans la cuve, ouais, c'est ça. Hey, nous autres, on se roulait à terre aux côtés. Tu sais, on se roulait à terre. Vous savez, c'est là que j'ai compris, le Seigneur dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On a ri là, ça n'avait pas de bon sens. Puis tu sais, checkais ça, tu sais, nous autres, on a de la veuve sécheuse, là, amène ça chez nous, puis, tu sais. Mais là, c'était pas fini, cela, là. Il fallait lui donner des cours. Hey, t'as beau d'avoir la laveuse sécheuse dans ta chambre de bain, mais tu regardes les pitons. Puis moi, je vais vous avouer, je suis sur le vieux modèle d'homme, OK? La laveuse, moi puis la laveuse, je connais pas ça. Mes enfants ont connu ça, ma femme connaît ça, même Noël, il connaît pas ça, lui. On est obligé de demander une sœur qui aille, lui montrer, puis tout ça, voyez-vous? En passant, ne donnez pas des laveuses sécheuses à tout le monde. C'est pas ça que je dis ici à matin, OK? Mais des fois, vous allez être obligé d'aller jusque-là. Puis ces gens-là, là, je peux vous dire, sont très reconnaissants. Ces gens-là, chaque fois qu'ils me voient, ils sont reconnaissants. Puis on était très heureux pour eux. Alors, voyez-vous, on a besoin. Des fois, c'est des laveuses sécheuses que les gens ont besoin. Des fois, c'est une oreille attentive. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on paye. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille. Vous savez, pour terminer, ce matin, en conclusion, il y a un beau verset, moi, qui me rappelle tout le temps l'accueil. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Comment est-ce que le Seigneur nous a accueillis? Comme on était. Là, ce que vous voyez, Noël, là, ce matin, là, ça fait au-dessus de 30 ans que Jésus travaille dans ma vie. Mais si tu m'aurais vu, là, en 70, peut-être tu n'aurais même pas voulu me parler. Il m'a accueilli comme j'étais en 70. Alors, si Dieu permet qu'il y ait des gens qui rentrent ici, accueillons-les comme ils le sont. Puis le Seigneur s'occupera bien d'échanger. Vous êtes d'accord avec ça? Puis dites-vous, je vais vous donner quelques exemples. Jésus a accueilli le jeune homme riche. D'accord avec ça? Jésus a accueilli la Samaritaine. Et puis la Samaritaine, là, c'était toute qu'une femme, ça. Il l'a accueilli. Il n'a pas commencé à dire, « Hey, t'es pas marié? » C'est combien de maris que t'as? Il n'a jamais dit ça. Il était ouvert. Il l'a accueilli. La femme adultère. C'est assez spécial, cette histoire-là. Moi, je n'en reviens jamais. Mais il semble que quand tu commets l'adultère, ça se fait à deux. Vous êtes d'accord avec ça? On ne sait jamais où est-ce que le gars, ils l'ont mis dans cette histoire-là. Hein? Ils ont amené la femme. Ah, elle était adultère. Mais le gars, lui, il est où, lui? Le Seigneur a accueilli la femme. Alors, frères et sœurs, ce matin, je termine avec ces quelques mots. Si vous voulez être une église accueillante, ça va prendre du temps, ça va prendre des sous, ça va prendre de la disponibilité. Mais je peux vous dire une chose. Je pourrais vous avoir des témoignages ici ce matin qui ont changé leur vie. Il y a juste quelques années, 2 ans, on a pris soin d'une jeune femme. On a pris soin de ses enfants. Puis aujourd'hui, elle est réceptionniste au bureau de Sembec. On ne sait pas ce que Dieu va faire avec ces gens-là. Vous ne savez pas. Quand les gens m'ont témoigné, ils ne savaient pas ce qui était pour arriver avec moi. Prenez des risques. Sortez de votre zone de confort, puis allez vers les gens. Alors, c'est quelques mots que je voulais vous partager ce matin. Je vous encourage, si vous voulez venir nous écouter pour le dîner, je ne sais pas si le petit coq, il va en avoir pas mal, là, mais en tout cas, soyez bien à l'aise. J'invite M. Lépine pour la fin, puis la prière. Ah, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin.
Merci beaucoup. Alors, cet après-midi, la période de questions, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, il y a 3 étapes en ce qui concerne, il y a l'accueil, après ça c'est la visite, puis le suivi. 3 équipes qu'on est en train d'implanter ici. C'est pas mal Michel qui a pris le rôle de formateur à ce niveau-là. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à s'impliquer de quelque façon que ce soit, ou simplement pour écouter, juste à lever votre main, on vous fait venir un petit coq. Si vous voulez que je fasse quelque chose, ce n'est pas de problème non plus, là. Mais pour terminer, combien de petits coqs qu'on commande? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À peu près 10 de petits coqs. Le restant, les autres qui vont venir, vous allez aller vous chercher quelque chose, OK, c'est ça? Parfait. Vers 1 heure. Ben, le temps de manger, nous autres, il est midi. On va essayer vers 1 heure. Si on n'a pas fini, vous mangerez les frites avec nous autres. Vous pouvez revenir n'importe quelle heure. Peut-être entre 1 heure et 2 heures, là, on va avoir une période de questions en ce qui concerne justement cette mise en place du programme Le Filet. On va terminer par la prière. Notre Dieu, on veut te remercier ce matin encore pour cette présentation qui nous démontre que ceux qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas, sont exactement comme nous étions avant de te connaître. On avait besoin de salut, on avait besoin de te connaître personnellement, puis on sait que les autres ont ce besoin-là. Maintenant, Seigneur, tu t'es servi des personnes pour nous parler. Aujourd'hui, tu veux te servir de nous pour parler aux autres. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider à s'impliquer là où tu veux qu'on s'implique. Et bénis, Seigneur, cette période que nous allons avoir ensemble ce midi et en début d'après-midi. On implore ta bénédiction sur chacun de nous selon nos propres besoins, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.